L'Utopie, livre premier. L'invincible roi d'Angleterre, Henri, huitième du nom, prince d'un génie rare et supérieur, eut, il n'y a pas longtemps, un démêlé de certaine importance avec le sérénissime Charles, prince de Castille. Je fus alors député orateur en Flandre, avec mission de traiter et arranger cette affaire. J'avais pour compagnon et collègue l'incomparable Cuthbert Tunstall, qui a été élevé depuis à la dignité de maître des archives royales aux applaudissements de tous. Je ne dirai rien ici à sa louange. Ce n'est pas crainte qu'on accuse mon amitié de flatterie, mais sa science et sa vertu sont au-dessus de mes éloges, et sa réputation est si brillante que vanter son mérite serait, comme dit le proverbe, faire voir le soleil une lanterne à la main. Nous trouvâmes à Bruges, lieu fixé pour la conférence, les envoyés du prince Charles, tous personnages fort distingués. Le gouverneur de Bruges était le chef et la tête de cette députation, et Georges de Tamasia, prévôt de Montcassel, en était la bouche et le cœur. Cet homme, qui doit son éloquence moins encore à l'art qu'à la nature, passait pour un des plus savants jurisconsultes en matière d'État. Et sa capacité personnelle, jointe à une longue pratique des affaires, en faisait un très habile diplomate. Déjà le Congrès avait tenu deux séances et ne pouvait convenir sur plusieurs articles. Les envoyés d'Espagne prirent alors congé de nous pour aller à Bruxelles consulter les volontés du prince. Moi, je profitais de ce loisir et j'allais à Anvers. Pendant mon séjour dans cette ville, je reçus beaucoup de monde, mais aucune liaison ne me fut plus agréable que celle de Pierre Gilles. Ce jeune homme, qui jouit d'une position honorable parmi ses concitoyens, en mérite une des plus élevées par ses connaissances et sa moralité, car son érudition égale la bonté de son caractère. Son âme est ouverte à tous, mais il a pour ses amis tant de bienveillance, d'amour, de fidélité et de dévouement, qu'on pourrait le nommer, à juste titre, le parfait modèle de l'amitié. Modeste et sans fard, simple et prudent, il sait parler avec esprit, et sa plaisanterie n'est jamais blessante. Enfin, l'intimité qui s'établit entre nous fut si pleine d'agréments et de charme qu'elle adoucit en moi le regret de ma patrie, de ma maison, de ma femme, de mes enfants, et calma les inquiétudes d'une absence de plus de 4 mois. Un jour, j'étais allé à Notre-Dame, église très vénérée du peuple, et l'un de nos plus beaux chefs-d'œuvre d'architecture. Et après avoir assisté à l'office divin, je me disposais à rentrer à l'hôtel quand tout à coup je me trouve en face de Pierre Gilles, qui causait avec un étranger déjà sur le déclin de l'âge. Le teint basané de l'inconnu, sa longue barbe, sa casaque tombant négligemment à demi, son air et son maintien annonçaient un patron de navire. À peine Pierre m'aperçoit-il qu'il s'approche, me tire un peu à l'écart alors que j'allais lui répondre et me dit en désignant son compagnon « Vous voyez cet homme ?» « Eh bien, j'allais le mener droit chez vous. »« Mon ami, répondis-je, il eût été le bienvenu à cause de vous. »« Et même à cause de lui, répliqua Pierre, si vous le connaissiez. »« Il n'y a pas sur terre un seul vivant qui puisse vous donner des détails aussi complets et aussi intéressants sur les hommes et sur les pays inconnus. »« Or, je sais que vous êtes excessivement curieux de ces sortes de nouvelles. » »« Je n'avais pas trop mal deviné, dis-je alors, car au premier abord, j'ai pris cet homme pour un patron de navire. » Vous vous trompiez étrangement. Il a navigué, c'est vrai, mais ce n'a pas été comme Palinure. Il a navigué comme Ulysse, voire comme Platon. Écoutez son histoire. Raphaël Idlaudet, le premier de ses noms et celui de sa famille, connaît assez bien le latin et possède le grec en perfection. L'étude de la philosophie, à laquelle il s'est exclusivement voué, lui a fait cultiver la langue d'Athènes, de préférence à celle de Rome. Il n'ignorait pas qu'en cette matière, les Latins n'ont rien laissé d'important, sauf quelques passages de Sénèque et de Cicéron. Le Portugal est son pays. Jeune encore, il abandonna son patrimoine à ses frères, et, dévoré de la passion de courir le monde, il s'attacha à la personne et à la fortune d'Amérique Vespus. Il n'a pas quitté d'un instant ce grand navigateur pendant les 3 derniers des 4 voyages dont on lit partout aujourd'hui la relation. Mais il ne revint pas en Europe avec lui. Amérique, cédant à ses vives instances, lui accorda de faire partie des 24 hommes qui restèrent lors du dernier voyage à Castel, le point le plus éloigné qu'atteignit l'expédition. Il fut donc laissé sur ce rivage, suivant son désir, car notre homme ne craint pas la mort sur la terre étrangère. Il tient peu à l'honneur de pourrir dans un tombeau, et souvent il répète cet apophthegme « Le cadavre sans sépulture a le ciel pour linceul. » Partout il y a un chemin pour aller à Dieu. Ce caractère aventureux pouvait lui devenir fatal, si la providence divine ne l'eût protégé. Quoi qu'il en soit, après le départ de Vespuce, il parcourut avec 5 de ses compagnons du Castel une foule de contrées, débarqua à Trapoban comme par miracle, et de là parvint à Calicut, où il trouva des vaisseaux portugais qui le ramenèrent dans son pays, contre toute espérance. Dès que Pierre eut achevé ce récit, je lui rendis grâce de son obligeance et de son empressement à me faire jouir de l'entretien d'un homme extraordinaire. Puis j'abordai Raphaël, et après les saluts et compliments d'usage à une première entrevue, je le conduisis chez moi avec Pierre Gilles. Là, nous nous assîmes dans le jardin, sur un banc de gazon, et la conversation commença. Raphaël me dit d'abord comment, après le départ de Vespuce, lui et ses compagnons, par leur douceur et leurs bons offices, s'attirèrent l'amitié des indigènes, et comment ils vécurent avec eux en paix et dans la meilleure intelligence. Il y eut même un prince, dont le pays et le nom m'échappent, qui leur accorda la protection la plus affectueuse. Sa libéralité leur fournissait barques et chariots, et tout ce qu'il fallait pour continuer leur voyage. Un guide fidèle avait ordre de les accompagner et de les présenter aux autres princes avec d'excellentes recommandations. Après plusieurs jours de marche, ils découvrirent des bourgs, des villes assez bien administrées, des nations nombreuses, de puissants états. Sous l'équateur, ajoutait Hydlodet, et de part et d'autre, dans l'espace compris par l'orbite du soleil, ils ne virent que des vastes solitudes éternellement dévorées par un ciel de feu. Là, tout les frappait d'horreur et d'épouvante. La terre en friche n'avait d'autres habitants que les bêtes les plus féroces, les reptiles les plus affreux, ou des hommes plus sauvages que ces animaux. En s'éloignant de l'équateur, la nature s'adoucit peu à peu. La chaleur est moins brûlante, la terre se pare d'une riante verdure, les animaux sont moins farouches. Plus loin encore, l'on découvre des peuples, des villes, des bourgs, où un commerce actif se fait par terre et par mer, non seulement dans l'intérieur et avec les frontières, mais entre des nations à grande distance. Ces découvertes enflammaient l'ardeur de Raphaël et de ses compagnons. Et ce qui entretenait leur passion des voyages, c'est qu'ils étaient admis sans difficulté sur le premier navire en partance, quelle que fût sa destination. Les premiers vaisseaux qu'ils aperçurent étaient plats, les voiles formées d'osiers entrelacés ou de feuilles de papyrus, et quelques-unes en cuir. Ensuite, ils trouvèrent des vaisseaux terminés en pointe, les voiles faites de chanvre. Enfin, des vaisseaux entièrement semblables aux nôtres, et d'habiles nautonniers connaissant assez bien le ciel et la mer, mais sans aucune idée de la boussole. Ces bonnes gens furent ravis d'admiration et pénétrés de la plus vive reconnaissance quand nos compagnons du Castel leur montrèrent une aiguille aimantée. Avant, ils ne se livraient à la mer qu'en tremblant, et encore n'osaient-ils naviguer que pendant l'été. Aujourd'hui, la boussole à la main, ils bravent les vents et l'hiver avec plus de confiance que de sûreté, car s'ils n'y prennent garde, cette belle invention, qui semblait devoir leur procurer tous les biens, pourrait devenir, par leur imprudence, une source de maux. Je serais trop long si je rapportais ici tout ce que Raphaël a vu dans ses voyages. D'ailleurs, ce n'est pas le but de cet ouvrage. Peut-être compléterai-je son récit dans un autre livre où je détaillerai principalement les mœurs, les coutumes et les sages institutions des peuples civilisés qu'il a visités. Sur ces graves matières, nous le pressions d'une foule de questions, et lui prenait plaisir à satisfaire notre curiosité. Nous ne lui demandions rien de ces monstres fameux qui ont déjà perdu le mérite de la nouveauté. Des cils, des sélènes, des lestrigons mangeurs de peuples et autres harpies de même espèce, on en trouve presque partout. Ce qui est rare, c'est une société sainement et sagement organisée. À vrai dire, Raphaël remarqua chez ces nouveaux peuples des institutions aussi mauvaises que les nôtres. mais il y a observé aussi un grand nombre de lois capables d'éclairer, de régénérer les villes, nations et royaumes de la vieille Europe. Toutes ces choses, je le répète, feront le sujet d'un autre ouvrage. Dans celui-ci, je rapporterai seulement ce que Raphaël nous raconta des mœurs et des institutions du peuple utopien. Auparavant, je veux apprendre au lecteur de quelle manière la conversation fut amenée sur ce terrain. Raphaël accompagnait son récit des réflexions les plus profondes. Examinant chaque forme de gouvernement, il analysait avec une sagacité merveilleuse ce qu'il y a de bon et de vrai dans l'une, de mauvais et de faux dans l'autre. À l'entendre discuter si savamment les institutions et les mœurs des différents peuples, il semblait qu'il eût vécu toute sa vie dans les lieux où il n'avait fait que passer. Pierre ne put contenir son admiration. « En vérité, dit-il, mon cher Raphaël, je m'étonne que vous ne vous attachiez pas au service de quelque roi. Certes, il n'en est pas un qui ne trouvât en vous utilité et agrément. Vous charmeriez ses loisirs par votre connaissance universelle des lieux et des hommes, et une foule d'exemples que vous pourriez citer lui procurerait un enseignement solide et des conseils précieux. En même temps, vous feriez une brillante fortune pour vous et les vôtres. « Je m'inquiète peu du sort des miens, » reprit Hildotée. « Je crois avoir passablement rempli mon devoir envers eux. Les autres hommes n'abandonnent leurs biens que vieux et à l'agonie, et encore lâchent-ils en pleurant ce que leur main défaillante ne peut plus retenir. Moi, plein de santé et de jeunesse, j'ai tout donné à mes parents et à mes amis. Ils ne se plaindront pas, j'espère, de mon égoïsme. Ils n'exigeront pas que pour les gorgées d'or, je me fasse esclave d'un roi. Entendons-nous, dit Pierre, je ne voulais pas dire que vous deviez vous asservir au roi, mais leur rendre service. Les princes, mon ami, y mettent peu de différence. Et entre ces deux mots latins, servire et inservire, ils ne voient qu'une syllabe de plus ou de moins. Appelez la chose comme il vous plaira, répondit Pierre. C'est le meilleur moyen d'être utile au public, aux individus, et de rendre votre condition plus heureuse. Plus heureuse, dites-vous. Et comment ce qui répugne mon sentiment à mon caractère ferait-il mon bonheur? Maintenant, je suis libre, je vis comme je veux, et je doute que beaucoup de ceux qui revêtent la pourpre puissent en dire autant. Assez de gens ambitionnent les faveurs du trône. Les rois ne s'apercevront pas du vide si moi et deux ou trois de ma trempe manquons parmi les courtisans. Alors, je pris ainsi la parole. Il est évident, Raphaël, que vous ne cherchez ni la fortune ni le pouvoir. Et quant à moi, je n'ai pas moins d'admiration et d'estime pour un homme tel que vous que pour celui qui est à la tête d'un empire. Cependant, il me semble qu'il serait digne d'un esprit aussi généreux, aussi philosophe que le vôtre, d'appliquer tous ses talents à la direction des affaires publiques. Dussiez-vous compromettre votre bien-être personnel? Or, le moyen de le faire avec le plus de fruit, c'est d'entrer dans le conseil de quelque grand prince. Car je suis sûr que votre bouche ne s'ouvrira jamais que pour l'honneur et pour la vérité. Vous le savez, le prince est la source d'où le bien et le mal se répandent comme un torrent sur le peuple. Et vous possédez tant de science et de talent que n'eussiez-vous pas l'habitude des affaires, vous seriez encore un excellent ministre sous le roi le plus ignorant. Vous tombez dans une double erreur, cher Maurus, répliqua Raphaël. Erreur de fait et de personne. Je suis loin d'avoir la capacité que vous m'attribuez. Et quand j'en aurai 100 fois davantage, le sacrifice de mon repos serait inutile à la chose publique. D'abord, les princes ne songent qu'à la guerre, art qui m'est inconnu et que je n'ai aucune envie de connaître. Ils négligent les arts bienfaisants de la paix. S'agit-il de conquérir de nouveaux royaumes, tout moyen leur est bon. Le sacré et le profane, le crime et le sang ne les arrêtent pas. En revanche, ils s'occupent fort peu de bien administrer les États soumis à leur domination. Quant au Conseil des rois, voici à peu près leur composition. Les uns se taisent par ineptie. Ils auraient eux-mêmes grand besoin d'être conseillés. D'autres sont capables et le savent. Mais ils partagent toujours l'avis du préopinant qui est le plus en faveur. Et applaudissent avec transport aux plates sottises qu'il lui plaît de débiter. Ces vils parasites n'ont qu'un seul but, c'est de gagner par une basse et criminelle flatterie la protection du premier favori. Les autres sont les esclaves de leur amour-propre et n'écoutent que leur avis. Ce qui n'est pas étonnant, car la nature inspire à chacun de caresser avec amour les produits de son invention. C'est ainsi que le corbeau sourit à sa couvée et le singe à ses petits. Qu'arrive-t-il donc au sein de ces conseils, où règnent l'envie, la vanité et l'intérêt? Quelqu'un cherche-t-il à appuyer une opinion raisonnable sur l'histoire des temps passés ou les usages des autres pays? Tous les auditeurs en sont comme étourdis et renversés. Leur amour-propre s'alarme, comme s'ils allaient perdre leur réputation de sagesse et passer pour des imbéciles. Ils se creusent la cervelle jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un argument contradictoire. Et si leur mémoire et leur logique sont en défaut, ils se retranchent dans ce lieu commun. Nos pères ont pensé et fait ainsi. Et plût à Dieu que nous égalions la sagesse de nos pères. Puis il s'assoit en se rengorgeant, comme s'il venait de prononcer un oracle. On dirait à les entendre que la société va périr s'il se rencontre un homme plus sage que ses ancêtres. Cependant, nous restons froids, en laissant subsister les bonnes institutions qu'ils nous ont transmises. Et quand surgit une amélioration nouvelle, nous nous cramponnons à l'antiquité pour ne pas suivre le progrès. J'ai vu presque partout de ces jugeurs moroses, absurdes et fiers. Cela m'arriva une fois en Angleterre. « Pardon, dis-je alors à Raphaël, vous auriez été en Angleterre ?»« Oui, j'y ai séjourné quelques mois, peu après la guerre civile des Anglais occidentaux contre le roi, guerre qui se termina par un affreux massacre des insurgés. Pendant ce temps, je contractais de grandes obligations envers le très révérend père Jean Morton, cardinal archevêque de Canterbury, et chancelier d'Angleterre. C'était un homme, je m'adresse seulement à vous, mon cher Pierre, car Maurus n'a pas besoin de ces renseignements. C'était un homme encore plus vénérable par son caractère et sa vertu que par ses hautes qualités. Sa taille moyenne ne se courbait pas sous le poids de l'âge. Son visage, sans être dur, imposait le respect. Son abord était facile, en même temps que sérieux et grave. Il prenait plaisir à éprouver les solliciteurs par des apostrophes quelquefois un peu rudes, quoique jamais offensantes. Et il était enchanté de trouver chez eux de la présence d'esprit et de vives saillies sans impertinence. Cette épreuve l'aidait à juger le mérite et à le placer suivant sa spécialité. Son langage était pur et énergique, sa science du droit profonde, son jugement exquis, sa mémoire prodigieuse. Ces brillantes dispositions naturelles, il les avait encore développées par l'exercice et par l'étude. Le roi faisait grand cas de ses conseils et le regardait comme l'un des plus fermes soutiens de l'État. Transporté fort jeune du collège à la cour, mêlé toute sa vie aux événements les plus graves, ballotté sans relâche sur la mer orageuse de la fortune, il avait acquis au milieu de périls toujours renaissants une prudence consommée, une connaissance profonde des choses qui s'était, pour ainsi dire, identifié avec lui. Le hasard me fit rencontrer un jour, à la table de ce prélat, un laïc réputé très savant légiste. Cet homme, je ne sais à quel propos, se mit à combler de louanges la justice rigoureuse exercée contre les voleurs. Il racontait avec complaisance comment on les pendait çà et là par vingtaines au même gibet. Néanmoins, ajoutait-il, voyez quelle fatalité. À peine si deux ou trois de ces brigands échappent à la potence, et l'Angleterre en fourmille de toutes parts. Je dis alors, avec la liberté de parole que j'avais chez le cardinal, « Cela n'a rien qui doive vous surprendre. Dans ce cas, la mort est une peine injuste et inutile. Elle est trop cruelle pour punir le vol, trop faible pour l'empêcher. Le simple vol ne mérite pas la potence, et le plus horrible supplice n'empêchera pas de voler celui qui n'a que ce moyen de ne pas mourir de faim. » En cela, la justice d'Angleterre et de bien d'autres pays ressemble à ces mauvais maîtres qui battent leurs écoliers plutôt que de les instruire. Vous faites souffrir aux voleurs des tourments affreux. Ne vaudrait-il pas mieux assurer l'existence à tous les membres de la société, afin que personne ne se trouvât dans la nécessité de voler d'abord et de périr après? La société y a pourvu, répliqua mon légiste. L'industrie, l'agriculture offrent au peuple une foule de moyens d'existence. Mais il y a des êtres qui préfèrent le crime au travail. C'est là où je vous attendais, répondis-je. Je ne parlerai pas de ceux qui reviennent des guerres civiles ou étrangères, le corps mutilé de blessures. Cependant, Combien de soldats, à la bataille de Cornouailles ou à la campagne de France, perdirent un ou plusieurs membres au service du roi et de la patrie? Ces malheureux étaient devenus trop faibles pour exercer leur ancien métier, trop vieux pour en apprendre nouveau. Mais laissons cela. Les guerres ne se rallument qu'à de longs intervalles. Jetons les yeux sur ce qui se passe chaque jour autour de nous. La principale cause de la misère publique, c'est le nombre excessif des nobles, frelons ou oisifs qui se nourrissent de la sueur et du travail d'autrui, et qui font cultiver leur terre en rasant leurs fermiers jusqu'au vif pour augmenter leurs revenus. Ils ne connaissent pas d'autre économie. S'agit-il au contraire d'acheter un plaisir, ils sont prodigues jusqu'à la folie et la mendicité. Ce qui n'est pas moins funeste, c'est qu'ils traînent à leur suite des troupeaux de valets fainéants, sans état et incapables de gagner leur vie. Ces valets tombent-ils malades, ou bien leur maître vient-il à mourir, on les met à la porte. Car on aime mieux les nourrir à ne rien faire que les nourrir malades, et souvent l'héritier du défunt n'est pas de suite en état d'entretenir la domesticité paternelle. Voilà des gens exposés à mourir de faim s'ils n'ont pas le cœur de voler. Ont-ils en effet d'autres ressources? Tout en cherchant des places, ils usent leur santé et leurs habits. Et quand ils deviennent pâles de maladies et couverts de haillons, les nobles en ont horreur et dédaignent leurs services. Les paysans même ne veulent pas les employer. Ils savent qu'un homme élevé mollement dans l'oisiveté et les délices, habitué à porter le sabre et le bouclier, à regarder fièrement le voisinage et à mépriser tout le monde, ils savent qu'un tel homme est peu propre à manier la bêche et le hoyau, à travailler fidèlement pour un mince salaire et une faible nourriture au service d'un pauvre laboureur. Là-dessus, mon antagoniste répondit « C'est précisément cette classe d'hommes que l'État doit entretenir et multiplier avec le plus de soin. Il y a chez eux plus de courage et d'élévation dans l'âme que chez l'artisan et le laboureur. Ils sont plus grands et plus robustes. Et partant, ils constituent la force d'une armée quand il s'agit de livrer bataille. » Autant voudrait dire, répliquai-je alors, qu'il faut pour la gloire et le succès de vos armes multiplier les voleurs, car ces fainéants en sont une pépinière inépuisable. Et de fait, les voleurs ne sont pas les plus mauvais soldats, et les soldats ne sont pas les plus timides voleurs. Il y a beaucoup d'analogies entre ces deux métiers. Malheureusement, cette plaie sociale n'est pas particulière à l'Angleterre, elle ronge presque toutes les nations.